Oye, algo es un mismo caso oriental. J'ai totalement ce qui
Heureux de vous retrouver dans Parole aux auditeurs et bienvenue sur la fréquence de la paix. Certains agents et fonctionnaires de l'État sont suspendus de leurs fonctions dans certaines villes de la République démocratique du Congo pour absence au service le 16 février, journée décrétée ville morte par une frange de l'opposition, rapportent certaines sources. Ces sources évoquent principalement les cas de trois chefs de division de l'habitat, de la prévoyance sociale et de la communication et presse à Kindu au Maniema. Certains observateurs estiment que cette suspension se justifie au regard de la disposition de l'article 193 de la Constitution qui stipule que l'administration publique est apolitique, neutre et impartiale et que nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Une autre opinion pense qu'en tant que citoyen, le fonctionnaire jouit de la liberté d'association telle que garantie par la Constitution. Mais cette affaire relance plutôt le débat sur l'amélioration de l'image de l'administration. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Julie Fézabongonda est au standard, Alain Goury à la mise en onde, Piero et la Mégie à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Mouguebo sous la supervision de Martin Sebouy-Jangé. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par Internet. pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Professeur Pascal Issoumichou, vous êtes ministre de la fonction publique. Bonjour.
Bonjour, J.R.
C'est un réel plaisir de vous recevoir dans ce studio pour éclairer la lanterne des uns et des autres par rapport à cette thématique. Et nous disons d'ailleurs merci anticipativement à tous les auditeurs qui vont partager ce moment ou ces 57 minutes interactives avec nous. Félicien, vous êtes en ligne et nous vous demandons de garder la ligne. Voilà, professeur Pascal, vous êtes ministre, je le rappelle, de la fonction publique. Vous avez écrit personnellement une note circulaire pour remercier les secrétaires, les différents secrétaires généraux pour avoir résolu la différence, disons, la difficulté des transports ce jour-là, donc nous parlons du 16 février. Autrement dit, vous n'avez pas accepté le prétexte de l'absence de certains agents à leur poste de travail. Alors, comment réagissez-vous face à cette information qui circule et que certains agents, les fonctionnaires de l'État, ont été suspendus de leur poste?
D'abord, bonjour encore une fois et merci. Bonjour à tous les auditeurs de la radio FAPI. Merci de m'avoir invité encore une fois. En tout cas, comment j'ai réagi? Non, c'est vous qui parlez de suspension à Kindu. En tout cas, j'ai vérifié, c'est faux. Donc, il n'y a pas eu de suspension à Kindu. Mais je pense que ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que les agents pouvaient être sanctionnés? Et là, je réponds par oui. Par oui, pourquoi? Parce que le 16 février, c'était une journée ouverte, c'était une journée de travail, comme toutes les autres journées du travail. Et si ces jours-là, un fonctionnaire ne se présente pas, la loi est claire, il faut le sanctionner. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut réfléchir.
Alors, quelle lecture faites-vous de la disposition de l'article 193 de la Constitution qui stipule que l'administration est apolitique?
Je soutiens cet article, et cet article m'amène à dire ce que j'ai dit. À partir du moment où le 16 février est une journée de travail, comment on peut ne pas se présenter au travail? Vous voyez, c'est vrai, en tant que ministre, j'ai rappelé que c'est une journée de travail.
En tant que ministre, vous êtes politique.
Bien sûr, mais je suis en même temps administratif. Et je dirais, en tant que ministre de la fonction publique, je suis d'abord administratif. Et là, j'ai rappelé pas de considérations politiques, mais plutôt les prescriptions administratives pour dire à mes administrés, si vous le permettez, que attention, ne suivez pas la politique. Vous êtes apolitique. Demain, c'est prévu par tous les textes qui régissent la fonction publique dans notre pays. Demain, le 16 février, c'est une journée de travail. Ça, c'est prouver que c'est apolitique. J'ai agi en tant qu'administratif.
Alors, vous avez évoqué les textes. Et on sait tout de même qu'aujourd'hui, les textes qui régissent, ou les textes portant statut des personnels d'administration, de l'administration publique, ce sont les textes de la Deuxième République. Régis et corrigé, comme vous voulez, mais dans ce texte, il est clairement dit que l'agent et fonctionnaire de l'État, c'est un militant.
Ah, attention. Revu et corrigé. Et en revisant et en corrigeant, on a insisté sur le caractère apolitique. Vous comprenez? C'est un fonctionnaire, vous le savez, hein. Un agent est fonctionnaire de l'État, il ne peut même pas être candidat à un poste politique.
Donc c'est incompatible.
C'est incompatible. Pourquoi on parle de l'incompatibilité? C'est à cause de la politisme de la fonction publique. Imaginez-vous si la fonction publique était politisée dans une démocratie comme la nôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui gagnent les élections, ils ont leur administration. Si demain, c'est un autre groupe politique...
C'est à la raison.
Mais non, c'est pas comme ça. L'administration doit rester apolitique, et cela dans tous les pays du monde. Et nous avons des exemples. Vous prenez l'exemple de la Belgique, où le pays a fonctionné pendant près de 2 ans sans les politiques. Mais pourquoi? Parce que l'administration est apolitique. Vous voyez? C'est vers là que nous devons aller. Nous devons avoir une administration qui ne dépend pas du tout des humeurs des politiciens. Non, une administration qui sait ce qu'elle doit faire. Une administration efficace au service du développement du pays. Parce que les politiciens peuvent ne pas vouloir, à un moment donné, à cause des guerres, le développement du pays. Et les agents et fonctionnaires de l'État doivent être là pour dire non, nous travaillons pour que ce Congo devienne grand, comme nous le sentons dans notre hymne national.
Alors, toutes les études prouvent à suffisance que l'administration RDC n'existe pas. Ça, ce n'est pas le débat, mais reconnaissez-vous, monsieur le ministre, que les constituants ou la constitution de 2006 en fait garantit pour tous les citoyens, y compris les fonctionnaires, la liberté d'association?
Bien sûr, c'est pour cela qu'ils appartiennent à des mutuelles de santé et d'autres associations pour le bien de leur travail. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons des formations syndicales. Ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas pour ça.
C'est pas incompatible d'être aussi membre d'un parti politique.
Pardon, vous dites?
Pour un agent et fonctionnaire de l'État, d'être membre d'un parti politique.
Mais je pense que ce n'est pas là le débat. Le débat, est-ce que le 16 février, c'était une journée de travail ou pas? Je réponds en disant, c'était une journée de travail. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas travaillé ce jour-là devrait être sanctionné? La réponse est oui, parce que c'était une journée de travail. Est-ce qu'on a suspendu les gens à Kindu? Je dis, là, vous mentez.
Alors, si je comprends bien, le ministre nous fait savoir que un fonctionnaire qui ne se présente pas à son poste de travail peut être sanctionné.
Mais il le sait. Si nous ne le faisons pas...
Selon les textes, conformément au texte.
Exact. Si nous ne le faisons pas, ça va être quoi? Parce que nous déplions chaque jour l'impunité.
Voilà, on va écouter quelques auditeurs qui nous ont rejoint dans ces débats. Et nous avons noté que la deuxième partie est donc de la thèse que nous évoluons, une autre opinion qui pense qu'en tant que citoyen, les fonctionnaires jugent la liberté d'association, celle qui est garantie par la Constitution, mais que pour cette opinion, cette affaire relance plutôt les débats sur l'amélioration de l'image de l'administration. Félicien, vous êtes à Kinshasa, à Mons, à Bukavu, Adrien Kananga. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à son Excellence, notre invité, à tous les auditeurs de radio.
Bonjour Félicien.
Bien, moi je pense que Gérard a déjà dit ce que je devais dire par rapport aux libertés d'association, liberté d'expression, liberté des grèves et tout ça et pour les fonctionnaires. Je pense que la Constitution a déjà prévu ça. Je ne pense pas que nous puissions encore discuter là-dessus. Les fonctionnaires, il est peut-être interdit aux fonctionnaires de postuler à un poste politique, mais la liberté est garantie par la Constitution, concerne tout le monde, y compris les fonctionnaires. Mais je reviens à la journée du 16 mars. Moi, je ne pense pas que, comme son Excellence a dit, que si quelqu'un s'absente le 16 mars, on doit le sanctionner. Parce que s'il part aujourd'hui, demande dans toutes les administrations, il trouvera aussi des gens qui sont absents. Donc, pourquoi les absences du 16 février doivent être des absences spéciales où on devrait veiller à ça? Moi, je pense que là, on a raté les coches. parce que la journée du 16 février, c'est une journée qui devrait être consacrée, une journée que l'État congolais devrait prendre en charge. C'est une journée de méditation. C'est l'État congolais qui devrait donner les congés ou les repos ce jour-là, ou qui devrait organiser des manifestations ce jour-là. Parce que Kabila et la révolution sont venus justement au secours du peuple congolais qui était sous la dictature de Mobutu, qui sont tombés sous les balles de Mobutu, et comment on peut libérer le peuple et les acquis de libération là, et ne concerne pas ce pouvoir là. Comment est-ce que ça peut être une journée où l'opposition doit récupérer? Or, cette opposition qui récupère cette journée là, quand vous regardez pour la plupart, ils étaient parmi les sorcières, qui ont tué ces jours-là. Moi, je pense que de ce côté-là, la révolution a échoué.
Voilà. Alors, Félicien, une préoccupation. Est-ce que vous pensez comme les autres qu'aujourd'hui, pour arriver à rendre un peu la lettre de noblesse à notre administration, il faudrait bien travailler pour qu'on arrive en fait à rendre cette administration apolitique, il faudrait bien travailler sur l'amélioration de notre administration, parce que tout à l'heure on a évoqué les cas d'une administration qui n'existait pas. Est-ce que vous pensez qu'un travail de fond qui doit être fait du côté de l'administration pourrait en fait travailler sur la prise de conscience des uns des autres?
Au Niger, là, nous en avons déjà parlé, nous parlons toujours, il y a eu des réformes et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est l'accent sur la date du 16 février, et si les fonctionnaires devaient être sanctionnés ou pas. Mais moi, je pense que les fonctionnaires, les gens, quand ils s'absentent le 16 février, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont pour, la vie de l'opposition, ou bien ils veulent obéir à l'opposition. Il y a des gens qui peuvent ne pas aller au travail parce qu'ils ont peur, qui peuvent être attaqués par des voyous qu'on utilise. Il y a des gens qui peuvent ne pas aller parce que le transport ce jour-là devient rare. Et il y a des gens qui peuvent aussi obéir au mandat de l'opposition. Mais quand on doit prendre ce jour-là comme un jour spécial, et on doit prendre toutes les dispositions, celui qui ne vient pas, on les sanctionne. Alors que les autres jours, les gens s'absentent, ils ne sont pas sanctionnés. Voilà. Moi, je dis que de ce côté-là, le gouvernement doit revoir. Parce que la révolution qu'on a faite, c'était pas pour soutenir les erreurs de Mobutu, parce que ça c'est une erreur que Mobutu a fait. Et comme il y a dans le gouvernement plus de Mobutistes, la révolution a été récupérée par les Mobutistes qui entourent les pouvoirs de la révolution. Donc les révolutionnaires sont moins nombreux de ce côté-là. C'est pourquoi ils ont.
Voilà, Félicien, on ne va pas monopoliser la parole, je crois qu'on va s'arrêter là avec vous. On va prendre plutôt Amos qui est à Bukavu. Amos, bonjour et bonne arrivée pour les gens de Radio Capi, Amos.
Bonjour JR, bonjour à notre invité.
Bonjour,
bonjour à tous les peuples congolais qui nous écoutent.
Vous avez la parole, Amos. En fait, vous avez suivi Félicien.
Merci bien pour la parole, mais ce qui fâche au Congo, c'est ce qui déséquilibre tout le monde, le fait que souvent dans notre pays, nous assistons à des décisions de deux fois deux mesures. Il est vrai que notre conscience, on assiste à 193, stipule que l'administration publique est apolitique. Là, dans le presse, l'université, je vois l'éducation supérieure. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Souvent, et là je parle plus particulièrement de la ville de Bukavu où je vis. Et j'espère bien que l'invité au studio, lui aussi, me dit tout ce que je veux dire. À Bukavu, quand le pouvoir en place, c'est-à-dire là, je vois le PPRD et ses alliés, organisent des manifestations ou des activités politiques qui concernent seulement le PPRD et ses alliés, nous voyons, on exige à tous les ministères, provinciaux, à toutes les divisions, aux différentes institutions publiques, même au marché, institutions supérieures et universités, on les exige de prendre part à ces activités-là. Et je mets en avis le pouvoir aujourd'hui. Ils tapent le poids sur la table disant non, il faut que la loi soit appliquée. Ces gens ne sont jamais inquiétés. Le ministre présent au studio, ici dernièrement le DG de l'ISD, nous avons vécu dernièrement le PPRD organisé des manifestations à la poste à Bukavu. Lui-même était là avec les agents de l'ISD. Ils n'ont pas été sanctionnés. C'est là que nous nous disons dans ce pays. Nous devons éviter de faire la politique de l'Autriche. Nous devons éviter de faire la politique.
Mais oui, avance, s'il vous plaît. Voilà, je crois que nous recevons dans ce studio professeur Pascal Ichobichot en tant que ministre de la fonction publique. Il est administratif et il est politique. Mais actuellement, par rapport au débat, nous le recevons en tant que ministre comme responsable de l'administration publique.
C'est ça que j'ai dit, parce qu'il fallait, s'il a été reçu comme ministre, je veux que je le respecte bien, mais il fallait savoir que ce qu'ils avaient appliqué dans l'État, il faut qu'ils l'oublient, mais je n'ai pas dû sanctionner toutes ces institutions supérieures, universitaires, même les institutions publiques de l'État, qui prennent part aux activités du peuple de ses alliés. Mais comme scandale du CES, c'est l'opposition qui avait lancé le mot d'ordre, on voit maintenant l'État du pouvoir vouloir appliquer la loi. Ça, c'est ce que j'ai condamné en disant nous devons éviter au Congo ce qu'on appelle la décision de deux points de vue.
Merci beaucoup.
C'est ce que je voulais encore évoquer. Nous avons vu le pouvoir nous dire non, le mot de l'opposition n'a pas été respecté.
Comment voilà, c'est un autre débat, on risque de retourner à l'arrière, on est censé évoluer parce qu'aujourd'hui, nous parlons de cette disposition de la Constitution, l'article 193, qui parle d'administration qui est apolitique. D'autres, une autre opinion, pense plutôt que tout citoyen jouit de la liberté d'association, mais que cet appel relance le débat sur l'amélioration l'image de l'administration qui passe par une réforme très profonde. Merci beaucoup, Amos. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à son excellence, monsieur le ministre.
Bonjour. Vous avez la parole, Maître Adrien.
Oui, merci, JR. Je pense qu'il faut faire d'abord une distinction parce que lorsque nous analysons l'article auquel 183 vous faites allusion, il est vrai que l'administration publique est apolitique. Maintenant, il faut comprendre être apolitique. Parce que j'ai suivi son excellence, dire qu'est-ce que. Donc, c'est ce qui fait qu'un fonctionnaire ne peut pas postuler les postes politiques. Non, il peut le faire, mais sous réserve de certaines conditions. Donc, s'il écrit la lettre de la mise en disponibilité, il peut postuler. Donc, ça, c'est première précision. Deuxième précision maintenant par rapport à cette affaire, ce n'est pas à moi de rappeler à son excellence, monsieur le ministre de la fonction publique, que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, l'administration publique a toujours été politisée. Donc c'est sur peut-être papier qu'on nous dit ça, mais en réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours la même mise de la politique. Maintenant, avec ça, je pense que c'est là que les agents de l'État et les fonctionnaires ne sont pas vraiment mis à l'abri. Il y a les amis qui ont invoqué certains cas palpables. Lorsqu'il y a des manifestations à gauche, à droite, ils participent, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a l'autre son des cloches, il y a des problèmes. C'est comme ça que moi, j'ai raisonné autour de cette question-là pour dire, avec ça, avec la réforme entamée déjà au niveau de notre administration publique, il serait mieux qu'on puisse aussi insérer certains garde-fous pour protéger vraiment l'administration publique. Autrefois, j'ai sur les antennes de la radio Capis, j'ai donné un cas patent et puis qui m'avait étonné en tant qu'avocat. Il y avait une certaine retraite organisée par le prédécesseur de son excellence actuelle. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs qui s'étaient glissées. Il a lui-même demandé pour qu'on puisse continuer à payer donc ces agents-là de l'environnement ici à Kananga, donc au Kasaï. Mais ce sont des chefs de division d'ici qui avaient résisté devant cette demande de son excellence, monsieur le ministre de la fonction publique. C'est comme ça que lorsque vous entrez maintenant dedans, on vous dira que non, parce que ces chefs de fonction là, ces chefs de division étaient du PPRD, comme ceux qui avaient des pouvoirs, ils avaient résisté et tout le monde était vraiment étonné. Donc moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour aider l'administration d'être vraiment libre, c'est d'enlever certaines situations qui ont trait à la politique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que lorsque vous voyez l'administration publique, c'est vrai, moi je me rallie, j'ai à la deuxième opinion, qui estime que bien que la loi dit que l'administration publique est apolitique, mais les droits reconnus à un Congolais, donc d'appartenir à un groupe d'association, est reconnu. Parce que j'ai eu à faire une distinction ici. Donc lorsque vous appartenez à un groupe, même à un parti politique, cela n'est pas
du, n'est pas du tout. Voilà, merci, merci beaucoup Adrien. Alors nous retenons une chose pour vous, vous proposez que dans les cadres de la réforme, il faudrait qu'on puisse insérer des garde-fous pour éviter ces genres de confusion. Merci beaucoup Damas, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Damas.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi la ministre et puis bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Kati.
Bonjour.
J'aimerais poser une question à monsieur le ministre. Entre les lois de la République et la Constitution, qui peut être appliqué et qui ne peut pas être appliqué? Deuxième chose, la Constitution de la République démocratique du Congo donne à chaque Congolais le droit de se manifester lorsqu'il déclare qu'il y a quelque chose qui ne s'en va pas. Il peut être se manifester. Et puis encore une fois de plus, les lois de la République ou la Constitution lui-même donne les Congolais les droits de se manifester, de créer des partis politiques et puis de s'associer. Mais comment est-ce que jusqu'aujourd'hui nous remarquons que après avoir l'événement de le 16 février, jusqu'aujourd'hui, il y a même aussi les agents qui sont qui ont été révoqués.
Alors vous avez Damas, parce que c'est vrai, nous avons évoqué un cas au Maniema. Ce cas n'a jamais été porté au niveau de du ministère de tutelle. Est-ce que vous, à Kinshasa, vous avez quelques cas que vous pouvez nous signaler? Comme ça, ça pourrait aider l'autorité à pouvoir être un peu regardant par rapport à ça. À Kinshasa,
oui,
vous avez
des... À Kinshasa, même s'il y a eu certaines choses qui ont dit mais ce n'était pas révoqué. Mais ce qui s'est passé à Lubumbashi.
Alors, à Lubumbashi,
il y a des gens qui ont fermé les magasins. Oui.
Oui, bon, ça c'est sérieux. Nous disons des fonctionnaires qui ont été suspendus pour n'avoir pas été à un poste de travail, c'est-à-dire pour l'absence le 7 février. Vous avez des cas?
Mais monsieur le journaliste, est-ce qu'il y a des lois qui disent que si un fonctionnaire de l'État fait sa manifestation pour quelque chose qui ne va pas au pays, il doit être sanctionné ou doit être attendre un peu pour que
merci ça, beaucoup. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Justin, vous êtes à Dungu. Je crois qu'il en vaut pour tous ceux qui vont intervenir plus tard. En fait, si nous avons des cas, pas tant de cas qu'on peut porter dans un témoignage par rapport à cette thématique, je crois que nous avons la bouche autorisée, nous avons l'autorité avec nous pour en fait nous éclairer là-dessus. Donc vous pouvez nous faire parvenir cette fait. Et Justin, vous êtes à Dungu. Bonjour. Et bienvenue dans
oui.
Les auditeurs.
Oui, bonjour à Radio Kati et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati. C'est Justin à partir de Dungu. Je ne suis pas d'avis que vous pouvez sanctionner les gens comme ça, juste parce qu'ils se sont ralliés aux manifestations ou quoi. Mais j'ai une petite question à poser à l'invité. Qui est dit la législation sociale pour les sanctions. Je ne sais pas si on pouvait directement les sanctionner à la suspension ou on pouvait les blâmer. Quelle dit la législation concernant ces sanctions qu'ils ont infligées aux amis qui ne sont répondus ou qui se sont absentés ces jours-là. C'était ça ma
préoccupation. Alors on va prendre une question
là. Comme si le gouvernement se soit acharné juste pour ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas respecté peut-être la législation sociale de notre
pays. Voilà. Alors je crois que ça va permettre à notre invité de revenir, vous qui nous avez pris en cours de cette émission, peut-être vous avez parlé de cette information que pour le ministre, il n'y a pas eu de sanctions jusqu'à preuve du contraire. Mais si vous avez l'information, je crois que vous pouvez porter à notre connaissance afin que nous puissions débattre de cette question au cours de cette émission. Alors on va prendre le dernier intervenant de cette série. Avant de passer à notre invité, Gilles, vous êtes dans le Bandundu Ville. Bonjour Gilles.
Vous êtes bonjour, à Bandundu Ville. Bonjour Gilles.
Oui. Vous avez la parole Gilles.
Merci beaucoup pour la parole Monsieur Gilles. J'ai saisi d'abord l'occasion pour saluer mon ministre, donc Monsieur Pascal.
Merci.
Et j'ai saisi aussi l'opportunité pour présenter mes vœux à la Radio Capi qui a fêté son 1e anniversaire.
Le 14e anniversaire.
Voilà. Merci. Alors. D'entrée de jeu, j'évoquerai le chapitre D, dans son article 9, alinéa 4 du Code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Et ce Code de bonne conduite de l'agent de l'État dit qu'un agent public de l'État doit éviter de faire obstruction à la mise en œuvre des décisions ou des actions du pouvoir public. Je m'arrête là. Alors, cela veut dire autrement qu'un agent public de l'État ne peut pas recevoir les ordres de qui que ce soit pour qu'il se pose s'absente au service en dehors de ses chefs et hiérarchiques ou de la loi. Et je crois que si absence il y en a eu, ceux qui se sont absentés le 16 février, je crois qu'ils méritent des sanctions. Mais néanmoins, les combles seraient à ces niveaux, ou si un chef hiérarchique ou bien une autorité saisissait cette occasion pour pouvoir régler le conflit interne qui existe entre lui et son agent. C'est ce qui serait regrettable. Et alors, M. Gilles, posons la question, si sanction il y en a eu, parce que le ministre est en train de le démentir, et s'il y a eu sanction, quel est ce opposant qui est allé assister les agents de l'État qui se sont absentés ces jours-là pour pouvoir manifester? Je crois qu'il n'y a eu aucun opposant qui est allé assister les compatriotes qui ont été sanctionnés pour avoir s'absenté au travail ces jours-là. Voilà à quel niveau se situe mon intervention. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jires, d'avoir évoqué l'article 9, chapitre 2 du Code de bonne conduite, son article 9, donc, pardon, l'alinéa 4. Merci beaucoup. 081-890-3315 pour votre intervention en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguimbo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Madame Joséphine, vous êtes à Boston, gardez la ligne. Professeur Pascal Chomesso, ministre de la fonction publique, vous venez de suivre les uns les autres. Il y a beaucoup de préoccupations et également d'appréhensions. Mais nous prenons les tout derniers qui a évoqué là, le chapitre 2, l'article 9, sur la ligne 4 du Code de bonne conduite de l'agent de l'État. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire?
Mais d'abord, je voudrais remercier tout le monde qui vient d'intervenir. En tout cas, je suis content parce que on voit bien que tous les citoyens congolais ont le souci de voir notre administration devenir finalement efficace. Et je crois que c'est ça ce que nous devons garder à l'esprit. Nous voulons une administration qui soit efficace pour accompagner la vision du chef de l'État, celle de voir notre pays devenir émergent. Le gouvernement de la République a un programme, le programme d'action du gouvernement, et nous travaillons sous la conduite du Premier ministre pour atteindre cet objectif-là. Alors, pour ce qui me concerne, il faut préciser certaines choses. Je pense qu'ici, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas nous poser la question de savoir s'il fallait sanctionner ou pas les gens qui se sont absentés le 16. Et j'ai été content de Pélicien qui a dit il ne faut pas considérer les absences du 16 février comme des absences spéciales. Le 16 février, pour nous, a été une journée de travail comme toutes les autres journées. Et s'il y a des gens qui se sont absentés sans motif valable, mais ces gens doivent être sanctionnés conformément à la loi. Et c'est ce que Jires vient de dire.
Voilà.
Mais j'ajoute, pourquoi parler des cas que je ne connais pas? Ici, à Kinshasa, il y a eu quelques absences, n'est-ce pas? Et dans la note que j'ai adressée aux secrétaires généraux, je les ai félicités et j'ai bien noté que les quelques absences ont été dues au problème des transports, parce qu'il y a des particuliers qui n'ont pas circulé ces jours-là, et c'est tout à fait normal qu'il y ait quelques personnes qui soient absentes ces jours-là. Mais pour nous, ça a été une journée de travail. Moi, j'ai été au travail, j'étais à mon bureau depuis 6 heures du matin. Je me suis retrouvé, d'ailleurs, avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le ministre de la Santé, en dehors de la ville, pour le travail. Et j'ai travaillé jusqu'au soir. Donc ça a été une journée de travail et personne, en tout cas à ma connaissance jusqu'ici, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, n'a été sanctionné parce qu'il n'y a personne qui s'est absenté sans motif valable. Quoique, il ne faut pas qu'on revienne sur cela. Les gens parlent des révocations. Non, je n'en connais pas. Et même vous, les journalistes, vous parlez de qui nous... Non, c'est faux. Nous avons vérifié, c'est faux. Cela n'a pas été fait. Vous voyez? Alors, est-ce que l'agent ou le conseiller de l'État a droit à la liberté d'expression? Eh bien oui, c'est pour ça que je parlais du syndicalisme. Les syndicalistes sont là pour revendiquer les droits des travailleurs, n'est-ce pas? Et pas un groupe de citoyens dit « Demain, vous n'allez pas au travail. » Moi, en tant que responsable, je fais quoi? J'ai dit aux gens « Attention, il y a des gens qui vous disent que demain, vous ne devez pas aller au travail, mais demain, c'est une journée de travail. Celui qui ne vient pas, il va être sanctionné. » Ça, ce n'est que normal. Et jusque-là, je ne suis pas politique. Je reste administratif. Vous voyez? Je pense que je suis clair là-dessus.
Alors,
est-ce que l'agent a droit à manifester? Oui, c'est pour ça que, encore une fois, les syndicalistes, ils convoquent même des grèves, n'est-ce pas? Dans le respect des textes qui régissent les travailleurs. Nous n'avons jamais dit que parce que nous réformons l'administration publique, il n'y a plus droit à la grève. Non, le droit à la grève, c'est un droit reconnu par notre constitution.
Il y a un auditeur qui a évoqué le cas d'absence que l'administration enregistre au quotidien. En fait, il n'y a pas autant de tensions au niveau de la hiérarchie pour condamner ce genre d'absence, mais on attend peut-être quand il y a une tension politique. Et
non.
On assiste à un jeu.
Non, ce n'est pas s'agir. En fait, toutes les absences sont sanctionnées. Toutes les absences. Et puis, on se justifie. Il y a même quelqu'un qui m'a posé la question de savoir est-ce qu'on s'est réveillé, on sanctionne? Non, on sanctionne conformément au texte. Il y a toute une procédure. C'est pour cela que lorsqu'on parle de la révocation, on lui dit non, on ne peut pas révoquer quelqu'un comme ça. Il doit se justifier, il doit avoir des demandes d'explication, il doit avoir des ouvertures d'action disciplinaire, et les gens doivent le savoir. Maintenant, est-ce que la journée du 16 a été spéciale? Non. Mais disons aussi oui. Mais pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, un groupe de citoyens demande aux gens de ne pas aller au travail, alors que c'est une journée du travail. Vous voulez quoi? Que le ministre de la fonction publique croise les doigts? Que le ministre du Travail croise les bras? Non. Le ministre du Travail, son excellence, monsieur le vice-premier ministre, a fait passer le communiqué pour dire attention. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit il ne faudrait pas seulement que ce soit une occasion pour régler les comptes. Vous voyez? Ne vous absentez pas pour donner l'occasion à ceux qui veulent régler les comptes.
Vous avez vraiment veillé au gré pour qu'il n'y ait pas de règlement des comptes, parce que c'est vrai.
La preuve est que je vous dis qu'il n'y a pas eu de sanctions jusque-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de règlement des comptes. Quoique c'est clair. Non?
Alors, on a évoqué quelque part le cas de la Belgique qui a fonctionné pendant 2 ans, en fait, sans gouvernement, avec une administration. Mais par rapport à cette affaire, en fait, dans la deuxième alinéa de notre sommaire, le deuxième parti, nous avons même dit qu'aujourd'hui, le souci, c'est améliorer l'administration pour qu'on arrive à résoudre ce genre de confusions, ce genre de quiproquos qui, en fait, alimentent l'actualité. Du genre, bon, l'administration est apolitique, mais au lieu que les gens restent focalisés sur l'administration qui est apolitique, mais il faut commencer par changer l'image de votre administration. Vous avez une administration inexistante.
Je croyais que vous n'alliez pas utiliser ce terme.
Bon, en tout cas, je ne voulais pas l'éviter parce que pratiquement toutes les enquêtes, les spécialistes sous réserve, sous contrôle, en fait, des spécialistes, c'est que j'utilise les mots que j'ai pris dans leur documentation.
Je comprends, JR, ces spécialistes ont tort. Nous ne pouvons pas dire que notre administration est inexistante. Non, pas du tout. Si nous disons qu'elle est inefficace, d'accord, et c'est pour cela que nous réformons pour qu'elle devienne efficace, pour qu'elle devienne compétitive. Inexistante? Ah non, nous fonctionnons, n'est-ce pas? Si vous adressez maintenant à une administration pour une question, vous allez avoir la réponse. Avant même de venir ici au studio, vous savez combien de correspondances j'ai traitées? Parce que cette administration existe, je viens de signer beaucoup de lettres pour l'administration. En tout cas, elle existe, mais nous savons qu'elle a beaucoup de faiblesses, et c'est pour cela que nous sommes en train de réformer. Vous avez évoqué le cas de la Belgique. Comment pouvons-nous arriver à avoir une administration qui soit comme celle de la Belgique, qui a pu résister pendant 2 ans sans qu'il y ait les politiques, sans qu'il y ait le gouvernement, si c'est une administration qui peut suivre le mot d'ordre de n'importe qui? Ça doit être une administration qui respecte son code de bonne conduite, comme cela a été dit, qui respecte les textes, qui sait qu'aujourd'hui, c'est le jour du travail, je ne m'absente pas, point. Ça fait partie de la réforme. Savoir que non, je ne peux pas m'absenter comme je veux. Je ne peux pas m'absenter parce que quelqu'un me demande de m'absenter. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont plus droit à la grève. Non. Et je voudrais que ça soit clair. Lorsque les agents et fonctionnaires de l'État ont droit de gréver, ils connaissent la procédure et ils peuvent entrer en grève. Ce n'était pas le cas pour le 16 février. c'est tout simplement des gens qui disent « Demain, il n'y a pas de travail. » Ah non, demain, il y a travail. Et celui qui ne va pas au travail parce qu'il y a travail, il va être sanctionné. Encore une fois,
voilà. Avant d'ouvrir une petite brèche sur cette réforme, nous allons écouter cette deuxième série des auditeurs, pour balayer cette question sur le 7 février et puis passer aux propositions pour une administration efficace qui passe par.
Mais est-ce que vous permettez, parce qu'il y a, oui. Y a quelqu'un, un compatriote de Bukavu, qui a parlé des manifestations auxquelles j'aurais même
la politique de poids de mesure.
Exact. Je crois que c'est important. De le dire, lorsqu'il y a une manifestation officielle, c'est-à-dire reconnue par le gouvernement, nous devons participer. C'est pour cela que le premier intervenant, il a raison lorsqu'il a dit c'est l'État qui devait dire le 16, c'est une journée de réflexion. L'État ne l'a pas dit. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, il faut aller au travail.
La nature a
horrible. Mais si l'État décide aujourd'hui, si le gouvernement décide aujourd'hui que demain, jeudi, c'est une journée de réflexion, eh bien, nous devons suivre, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Voilà.
Voilà, on va passer de l'autre côté du standard pour accueillir Joséphine qui est à Boston, Simon Amatadi et Maître Serge à Camina. 081-890-7315, votre intervention directe.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conducteur physique. Imaginez passer de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka, en canoë kayak. Franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en parle. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
On poursuit avec parole aux auditeurs, votre magazine d'échange de citoyens. Joséphine, vous êtes à Boston, Simon Amatadi, Maître Serge Akamina. Joséphine, bonjour. Joséphine, bonjour. Voilà, Joséphine est à Boston. Je crois que par rapport à la distance, nous avons un petit souci avec Saline. On va prendre plutôt Simon qui est à Matadi. Simon, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Simon Tsiloulou. Je suis le secrétaire provincial des syndicats des enseignants du Congo central. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, d'appétit, les interventions des uns et des autres, y compris des ministres. Mais ce qu'il faut faire, il va falloir seulement respecter la Constitution de la République. La Constitution, c'est notre mère, c'est notre maman. On ne peut pas toujours violer sa mère. Donc, ça serait une malédiction. L'article 26 dont on parle, on ne parle pas que des syndicats. On a dit la liberté de manifester est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. C'est-à-dire quoi?
Oui, Simon, je vous coupe tout de suite, mais on a ajouté, c'est dans le respect des lois de la République.
Oui, dans le respect de la loi de la République, oui, nous en venons. C'est ce que j'allais dire après avoir expiré. C'est-à-dire, si ces autorités, les organisations des partis politiques et tout ça qu'on sort, même si nous, au Congo central, il n'y en a pas eu ça, parce que moi, j'étais parti aussi au travail. Mais ce qui est vrai, s'il y a eu écrit et que l'employeur a reçu une lettre qui porte des écrits sur ça, il devrait laisser cette manifestation passer comme tel s'est passé, puis on va oublier ça. Mais lorsqu'il y a encore des choses qui suivent par après, on continue, on dirait, à adorer, à vanter cette manifestation qui a eu lieu. On continue à faire publicité. Et pour les gens qui ont été, je ne sais pas si
les
gens qui ont été sanctionnés à cause de ça. C'est clair, l'article 28 dit quoi? Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu
constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et aux libertés publiques et bonnes mœurs. Donc, si réellement
il y a eu des écrits, il y a eu échange dans ces sens-là qui a été fait, et que les personnes qui ont été radiées ou punies et consorts ont des preuves qu'ils appartiennent à telle structure ou telle autre structure, moi je crois que on devrait leur laisser faire. C'est comme ça notre pays sera bien vendu à l'extérieur. Mmh. Et que l'exercice de la liberté et de la démocratie est équilibré. Au lieu que l'employeur soit toujours à la défensive, elle doit aussi commencer à faire des choses comme telles. Notre pays aura une autre connotation au lieu de chercher à faire des choses pour plaire à l'autorité, pour que tout ça, non. L'administration publique est apolitique, mais les gens qui y sont ne sont pas apolitiques. C'est l'administration qui est apolitique, mais pas des individus.
Voilà merci beaucoup,
tout ce qu'on pouvait donc, dire vous, par rapport.
Voilà, pour vous, il faudrait quand même qu'on puisse faire la part des choses entre l'agent lui-même, qui peut être politique, mais l'administration dans son ensemble, elle est en tout cas constitutionnellement apolitique. Merci beaucoup. Maître Serge, vous êtes à Kaimina, au Katanga. Bonjour, Maître Serge.
Bonjour, Julien. Bonjour aussi à l'invité et tous les auditeurs de Radio Kati.
Bonjour, Serge.
Vous avez la parole, Serge.
Oui, oui. Moi, en tout cas, je voudrais saluer, en tout cas, la décision du gouvernement. C'est un salut pour moi. Vous savez, quand vous posez un acte, vous devez vous attendre à une réponse. Il y a un adage mathématique qui dit à toute question correspond une réponse. Vous posez un acte, après, vous allez regretter les résultats qui vont
suivre.
Non, ça non. Rien qu'à partir de ces regroupements-là, il peut y avoir aussi les éléments de frein qui peuvent s'organiser. Nous l'entendons là-bas, les qui s'organisent.
Oui, Maître Serge, restons dans les sanctions ou non. Est-ce que pour vous, l'administration reste apolitique? Je répète, il ne fallait pas participer ou répondre à n'importe quel appel. Mais alors, des questions de sanctions, faudrait-il sanctionner ceux qui étaient absents ce jour-là?
Oui, oui, il faut sanctionner. Là, on doit faire les travaux. C'est là où c'est parti. Je vous témoigne. Hein? Puisque ces gens-là ont fait ce qu'on appelle des soumissions aux ordres donnés par l'autorité. Hein? Il ne fallait pas. Lui refuse de ne pas marcher. Est-ce que si on s'enfermait dans une maison, prier ou s'exprimer un autre jour, hein? Est-ce que ça ne pouvait pas vous, ça ne pouvait pas payer? Il fallait seulement ces jours-là, c'est tirail. Lui a dit non, moi, je ne peux pas attendre. Il y aura ça, pas faire votre.
Voilà. Merci beaucoup, Serge.
Nous allons les faire. Voilà que, en tout cas, dans l'instant, moi, je suis en train de saluer que la décision reste vraiment
facile. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on a terminé notre dernière demi-heure, 30 minutes. Donc, on va passer maintenant à vos propositions pour dire comment améliorer notre administration avec le recrutement. Et également à la réforme actuelle. Mais alors, on va écouter quand même la dernière auditrice, voilà, Joséphine qui nous arrive à Boston. Joséphine, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi, et merci de m'avoir passé la parole.
Vous avez la parole.
Je vais demander au monsieur le ministre de Travail public.
Non, de la fonction publique.
Fonction publique, ok. Oh, il est venu expliquer tout ce qu'il a expliqué, c'est très bien. Mais quand on voit dans l'administration, dans la fonction publique, quand on constate des vols, il y a des détournements de
deniers publics,
pour les enseignants, on voit pas le ministre venir pour réclamer et puis citer ou bien faire arrêter ceux-là qui ont volé. De la même façon qu'il est venu aujourd'hui, on voudrait le voir dans
les prochains jours, venir aussi éclairer sur les cas de détournement, sur les cas de corruption, sur les cas de vol qu'on enregistre au niveau de l'administration publique. Mais voilà, alors madame, là ça nous relance encore le débat, comme l'ont souhaité certaines personnes, la question sur l'amélioration. Comment améliorer? Nous savons que notre ministère de la fonction publique s'est engagé depuis un certain temps à ce que nous avons un processus de réforme. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que c'est le résultat, parce que nous travaillons sur le but, l'objet est but, et le but est objet, pour le résultat. Alors, le résultat que tout le monde attend. Je crois que c'est à ce niveau-là que vous souhaiterez, vous aussi, avoir une idée sur les résultats.
Oui, oui, mais je veux aussi dire ceci. Vous savez, la politique, c'est tout le monde qui fait la politique, que ce soit les agents de la fonction publique, que ce soit les gens qui font la politique, parce que les gens qui votent, ce sont les gens de la fonction publique, et les autres. Mais la population qui vote, mais la fonction publique fait partie de la population. Quand il y a des mesures de villes mortes, mais notre ministre doit savoir que même lui aussi, il fait partie des gens, de ces gens-là, de la politique. Ça, c'est un cas général. Quand il n'y a pas un transport qui doit t'amener à ton lieu de travail, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je crois qu'il ne faut pas sanctionner parce que tout le monde fait la politique.
Merci beaucoup, madame.
Tout le monde fait partie de la politique.
Merci beaucoup, madame Joséphine, d'avoir appelé 081-890-75 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, puis de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Voilà, je l'ai dit, nous entamons la dernière demi-heure de notre émission. Bienvenue à vous tous qui nous avez rejoints dans ce débat citoyen. Parole aux auditeurs, reçoit aujourd'hui pour vous le professeur Pascal Echembicho, ministre de la fonction publique. Monsieur le ministre, nous venons de suivre une longue série des auditeurs par rapport à cette question avant d'ouvrir une brèche sur en fait le processus de la réforme de la fonction publique. Où en est-on et à quelle étape nous nous retrouvons maintenant? Mais d'entrée de jeu, quelle réponse avez-vous aux uns aux autres par rapport à leurs expériences?
Merci beaucoup. Ben, je pense que les uns aux autres ont donné leur point de vue. Je peux réagir, je pense à Jean-Victime, qui a dit quelque chose de très important. Il a dit, monsieur le ministre, nous ne vous voyons pas passer à la radio lorsque quelqu'un a volé ou il a détourné. Alors, je voudrais dire tout simplement qu'à ce moment-là, la radio Okapi ne m'invite pas.
Parce que ce sont des mots qui gangrènent.
Oui, c'est la radio Okapi qui m'invite. La radio Okapi m'a invité pour faire quelque chose, c'est pour ça que je suis là. Mais chaque fois qu'il y a un délit qui se commet dans notre administration publique, je suis disposé à venir donner des éclaircissements. Je pense que Joséphine doit s'adresser plutôt à la radio Okapi pour que celle-ci m'invite chaque fois qu'il y a un problème à éclairer.
Alors, nous profitons d'ailleurs pour le dire aussi, sincèrement, du fond de cœur, parmi de ministres qui, au fait, ne posent pas problème quand nous les contactons, donc pour éclairer la lanterne des uns des autres, et entre autres le ministre de la fonction publique, bon, qui va être nous étant de faire en direct. Mais,
merci beaucoup. Voilà. Mais bon. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, le ministre de la fonction publique, il s'occupe de l'administration publique. Et l'administration publique, c'est la base de tout, c'est la fondation de tout. Nous avons dans notre pays la vision du chef de l'État pour l'émergence et le développement du pays. Nous avons le programme d'action du gouvernement pour matérialiser cette vision. Mais si nous n'avons pas une administration efficace, vous parlez d'inexistence, moi j'ai dit non, si nous n'avons pas une administration efficace, tous ces mots vont être vains. C'est pour ça que le ministre de la fonction publique, il doit être conscient du fait qu'il pilote le ministère capital. Et je ne veux pas dire le plus important, mais en tout cas, le ministère de base pour tout le reste. Les autres ministères ne peuvent pas réussir si notre administration ne fonctionne pas normalement.
Alors, on a l'impression, parce que vous évoquez encore ce processus de réforme, mais on a l'impression qu'on se dit sur place. Parce que, c'est vrai, vous avez lancé la première édition, la deuxième édition d'ELENA, vous avez fait un pas avec l'arrivée du bâtiment pour la caisse de poisson, mais on se rend compte que tout ça, ça ne représente absolument rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan, plutôt que de toucher des questions de fond. c'est-à-dire une loi portant statut du personnel de l'administration publique qui traîne encore au niveau du Parlement. Mais, alors, on ne sait pas, la caisse de la retraite qui n'arrive toujours pas, on est de s'attaquer à des questions de fonds qui pourraient améliorer la qualité même de l'administration. Mais finalement, l'administration publique s'évertue à passer suffisamment de temps avec Alena, l'école. Je crois que tout le monde peut avoir un agrément facilement pour commencer une école.
Merci beaucoup, Gilles. Je comprends votre, je ne dirais pas colère, hein. Vous êtes journaliste, vous ne devez pas vous mettre en colère. Mais je peux bien comprendre la colère des auditeurs et je me demande les questions qui vont suivre. Et peut-être que mon intervention va déjà apaiser l'attention. Nous ne faisons pas du surplace. Non, pas du tout. Nous avançons. Peut-être pas au rythme souhaité, mais nous avançons. Pourquoi? Je l'avais dit encore une fois ici, la réforme de l'administration publique tient sur trois piliers. Il y a évidemment le rajeunissement de cette administration publique parce qu'elle a vieilli. Il y a la caisse de retraite, il y a le système intégré de gestion des ressources humaines et des rémunérations, c'est-à-dire la maîtrise des effectifs, la maîtrise de la masse salariale. Le travail avance, ce n'est pas la question du jour aujourd'hui. Parlant du rajeunissement, comment rajeunir si nous n'avons pas de jeunes bien formés, d'où la place de l'ENA. Donc, il ne faut pas négliger ça. L'ENA est là pour donner une formation basique à des jeunes, et c'est pour cela que nous avons lancé le concours pour la troisième promotion, mais pas seulement une formation basique, mais une formation continue pour ceux qui sont déjà dans l'administration. Et le 12 mars, nous allons proclamer la première série de formations des chefs de division et des chefs de bureau qui auront suivi pendant 3 mois finalement une formation continue. Et puis vous avez parlé de la caisse de la retraite. Nous sommes avancés. Son Excellence Monsieur le Premier ministre a signé le décret au mois de décembre qui crée cette caisse. C'est-à-dire la caisse existe déjà sur le plan juridique. De l'autre côté, vous avez raison. Pour que le fonctionnaire de l'État commence à cotiser, pour que cette caisse devienne matérielle, commence à fonctionner réellement, il faut que ton statut soit revu. Et là, le texte, c'est la loi. Et cette loi, elle est à notre Assemblée nationale. En tout cas, j'ai été avec l'honorable président de l'Assemblée nationale qui a donné des garanties que cette loi va être votée pendant la session du mois de mars. Et donc, je vais dire qu'il faut être un tout petit peu patient. Après, la loi va être promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et la caisse va commencer à fonctionner.
Oui, parce que tout le monde attend que cette loi soit votée, promulguée par le chef, mais nous sommes dans l'hypothèse où, en tout cas, à cette session de mars, parce qu'il y a beaucoup de matières, en tout cas sur le plan politique, oui. Mais nous ne l'aurons pas, parce qu'il y a beaucoup de questions, la question sur les élections, la question sur les dialogues, la question, il y a beaucoup de questions qui concernent les matières prioritaires. Alors, au cas où, la loi sur le statut portant statut du personnel de l'administration publique n'est pas votée, n'est pas passée. Est-ce que le temps vous sera-t-il favorable encore?
Les élus du peuple sont conscients, et avec en tête le premier d'entre eux, l'honorable président de l'Assemblée nationale, les élus du peuple disaient, ils sont conscients que tout ce qui peut être fait sans une administration efficace, ça ne sert à rien. Pour dire tout simplement qu'ils sont conscients que s'il y a une loi qui doit être votée, la première, c'est cette loi qui permet à notre administration publique de devenir efficace.
Mais dans le cas contraire, le temps ne vous est-il pas possible, hein?
Ils sont
favorables, voilà.
Ils sont conscients de ça. Et je l'ai déjà dit, hein, si nous ratons la session de mars, eh bien, nous serons en retard, et ça, tout le monde sait que nous ne devons pas nous le permettre.
Voilà, on va prendre 2 auditeurs par rapport à que faire aujourd'hui pour améliorer la qualité, afin de nous éviter des confusions sur les textes par rapport à cette situation qui a prévalu donc le 16 février. Juste, vous êtes à Kindou, Jean à Mbandaka. Alors, juste, ça tombe à pic parce que les cas que nous avons évoqués tout à l'heure, c'est les cas de Kindou. Jules, vous êtes avec nous. Bonjour, Jules.
Bonjour, bonjour, J.R. Bonjour à son Excellence, monsieur.
Voilà, vous avez la parole, Jules.
Bon, je confirme d'abord que il y a des gens qui ont été suspendus à Kindou à la suite de la journée du 16 février. Donc, si le ministre ne les connaît pas, je suis désolé. Ça pose directement un problème d'information dans le pays.
Alors, vous avez des cas que vous pouvez nous signaler maintenant, parce que nous avons évoqué le cas du chef, pardon, trois chefs de division, de l'habitat, de la prévention sociale et de la communication et presse à Kinou.
Ils ont été bien évidemment suspendus et les arrêtés, quand on prend un arrêté, on ne les prend pas sous police, il est lié.
Oui, qui les a suspendus?
C'est l'autorité alors.
L'autorité laquelle? Parce qu'il y a un chef de division, il y a un directeur provincial, je crois que qui gère l'administration sur place, ou bien actuellement avec il y a le gouverneur, il y a le celui qui représente
le secrétaire général
de leur ministère respectif. Je sais pas, parce que si vous pouvez nous éclairer.
Je sais que c'est le gouvernement provincial qui a pris un arrêté pour le suspendre.
Le gouvernement provincial.
Oui.
Est-ce que vous avez une idée du contenu de cet arrêté ou peut-être de cette décision?
Je ne l'ai pas parcouru personnellement.
Personnellement, vous ne l'avez pas parcouru. Donc, on ne pourra pas faire trop de commentaires là-dessus. Mais toutefois, vous confirmez, on a affirmé qu'effectivement, il y a eu trois cas de suspension au niveau de Kindou.
Ah oui.
Merci beaucoup, Gilles, d'avoir appelé les Kindou. Alors, Jean, vous êtes en Bandaka. Jean, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis anniversaire à Radio Capi. Ma préoccupation est celle-ci. Il y a déjà la réforme de l'administration qui est en cours, mais en tout cas, aux yeux et aux vies de tout le monde, ça traîne. Ça traîne parce qu'il y a des gens qui ont travaillé depuis avant même l'indépendance, et pour le cas qui me concerne, mon papa travaille depuis 61 jusqu'à aujourd'hui, presque 80 ans, il ne sait pas encore de sa retraite. Et il y a des décès, et quand il y a des décès, la veuve ne touche que 3000 francs ou 1500 francs par mois. Alors que du vivant de leur conjoint, ils devaient déjà recevoir sa retraite et pouvoir jouir de ce qu'ils devaient gagner. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui meurent, et on ne sait pas, les deux restent encore malheureuses, la famille reste malheureuse, mais on va faire la réponse, mais jusqu'à quand? On attend que ça vienne vite, qu'on libère aussi certaines personnes. Parce qu'il y a beaucoup de discours, mais il y a beaucoup de réalisations.
Voilà pour vous, peu de réalisations. Alors, en 30 secondes, vous pouvez répondre à sa préoccupation.
Oui, il a raison. Nous sommes conscients que ça traîne et nous voulons que ça aille vite. Encore une fois,
on n'a pas l'impression qu'on a pour l'ENA. L'ENA, ça va vite. On est à la troisième session.
Mais parce que c'est plus facile. En fait, nous sommes. Nous avons été attrapés dans notre propre piège. Nous voulons réformer l'administration. La question des mises à la retraite dépend de la maîtrise de tous les systèmes, le système intégré, de gestion des ressources humaines. Mais ce qui travaille, c'est l'administration. Une administration qui n'est pas efficace, mais qu'on doit, d'une manière ou d'une autre, encore utiliser pour qu'elle-même se rende efficace. C'est pour cela que ça traîne. Vous voyez, nous ne pouvons pas dire, nous mettons tout le monde à côté.
Après le flash d'information, nous rappelons à nos auditeurs qui peuvent participer à cette émission en composant le 081-890-6315. Voilà, nous revenons à vous, monsieur, professeur Pascal Chibichot, monsieur le ministre, vous êtes avec nous. Alors, nous parlons aujourd'hui parce qu'il y a le souci de cet auditeur qui a fait longtemps de l'administration, qui, en fait, veut assez qu'on puisse voir le processus amorcer une vitesse, en tout cas de croisière. Aujourd'hui, vous avez lancé, depuis samedi d'ailleurs, la troisième session de l'ENA.
Oui.
Alors, quelles sont les conditions? Ce sont les mêmes conditions? Vous n'avez pas changé? Vous n'avez pas revu la feuille de route?
Non, c'est exactement les mêmes conditions. Nous allons recruter 100 candidats, 100 énarques, oui. Mm-hmm. C'est-à-dire, nous allons choisir 100 meilleurs de la République. Ils doivent avoir. Moins de 28 ans pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires et moins de 33 ans pour ceux qui travaillent déjà. Et il faut avoir minimum le diplôme de licence ou équivalent, de licence dans notre pays.
Oui, alors pour la licence, pour ceux qui n'ont jamais été dans l'administration.
Non, pour tout le monde.
Voilà. Alors, au même moment, il y a cette opération recrutement pour les directions standards. Où en est-on?
Mais d'abord, nous avons publié les résultats pour le premier concours de direction standard. Et maintenant, nous venons de lancer pour la suite. C'est-à-dire, la première phase a concerné 11 ministères. La deuxième phase va concerner 12 ministères et institutions.
Et les conditions, c'est toujours la licence pour ceux qui vont se mettre à l'administration?
Non. Dans l'administration, les conditions ne sont pas les mêmes qu'à l'ENA. Évidemment, le problème, c'est que nous avons mis les tout ensemble. Non. Les conditions pour les directions standards sont beaucoup plus souples qu'à l'ENA. Et là, il faut être dans l'administration ou alors être... comment on dit encore, NU, hein, les nouvelles unités, c'est aussi une façon pour nous de régler cette question des nouvelles unités. C'est-à-dire, de manière dérogative, nous avons autorisé aux nouvelles unités de concourir aux différents postes qui s'ouvrent par les directions standards dans la révision du cadre organique de notre administration publique.
Alors qu'il s'agisse de l'ENA ou encore de directions standards, d'aucuns évoquent d'ailleurs le cas de quotas. Des quotas qu'il faut privilégier. Est-ce que vous partagez cet avis
en
termes de province?
Je ne comprends pas, vous autres les journalistes, quand vous dites d'aucuns, j'espère que ça ne vient pas de vous.
Bon, en tout cas, pour le peu, c'est, ça ne vient pas de moi, c'est voilà, pour la vérité. Je ne pouvais pas tout lire exactement parce qu'on avait des petits soucis de
l'État. D'accord.
Des internautes.
D'accord. Pour être inscrit à l'ENA, pour faire partie de 100, est-ce qu'il faut un quota où nous voulons avoir des élites? Les élites de notre pays, à ce moment-là, on oublie leurs origines.
Pour éviter des situations, des gens qui disent, bon voilà, on va favoriser trop des gens de l'Est ou encore trop des gens de l'Ouest.
Il n'y a pas de favoritisme. Je vous dis que tout le monde, celui qui veut vérifier, il peut venir, il peut vérifier les copies. C'est-à-dire, nous mettons tout le monde au même pied d'égalité. Et nous, voilà, ils subissent le test écrit, le test oral, et à la fin, nous prenons les meilleurs. Bon, si jamais les meilleurs viennent d'un côté, ça veut dire qu'il y a un certain déséquilibre dans notre pays, et effectivement, ça doit nous donner matière à réflexion. Est-ce que la réflexion doit aller dans le sens de dire qu'il faut faire, il faut des quotas pour les provinces? Après, ça sera des quotas dans chaque province pour les territoires. Après, ça sera des quotas de chaque collectivité dans un territoire. Après, ça sera des quotas de chaque village. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons voir les choses pour notre administration. Nous voulons avoir une administration efficace au service du pays, pour le développement du pays, et pas, attention, une administration représentative du pays, mais pas efficace. Vous voyez ce que je veux dire?
Est-ce que vous pensez que nous allons nous inscrire sur une durée? Il faut combien de temps pour qu'aujourd'hui nous changeons l'image de notre administration? Qu'elle soit vraiment apolitique, qu'elle soit, qu'on parle de notre administration. Faut combien de temps?
Non, je pense que ce n'est pas question de temps.
Un mois?
Non.
Une année?
Non, hier, ce n'est pas question du temps, c'est question des moyens et question de volonté. Pourquoi question de moyens? Notre dernier auditeur, il a dit qu'il attend. Il doit aller à la retraite, il attend. Mais pourquoi il attend? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Si nous avons les moyens, nous mettons directement les gens à la retraite et cela nous permet de rajeunir directement. Vous voyez, ça ne demande pas le temps. Si nous avons les moyens, en un an, nous pouvons déjà suffisamment avancer. Alors, il y a aussi la volonté, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans l'administration et qui travaillent sur les différentes bases de données, qui aient la volonté. Je vais vous donner un cas, par exemple, pour les résultats du concours. On n'en parle pas, peut-être que les questions vont venir. Il y a eu un problème. C'est pas un problème grave, mais le jury fait son travail. Mais j'ai dit, avant de publier ces résultats, je dois me rassurer que ça a été très bien fait. Je vérifie, je trouve qu'il y a des petites erreurs. Je reviens au jury, j'ai dit, revoyons les copies. On vérifie les copies et on se rend compte que le ministre a raison. Et donc, on se retrouve avec deux résultats. Alors, parce que nous avons parlé de l'efficacité. L'informaticien qui devait poster sur le site le résultat, il poste le premier résultat. En fait, il se trompe. Moi, je me rends compte qu'on a posté pas le bon résultat. Le résultat que moi, j'ai attesté. J'ai dit non, vous retirez, parce que je dois assumer ma responsabilité. Vous postez le résultat, les grilles que moi-même j'ai signées. Et si vous allez sur le site, vous allez vous rendre compte que même le pourcentage est là. S'il y a quelqu'un qui doute, eh bien, même s'il n'est pas à Kinshasa, il nous envoie un mail, nous allons lui envoyer ses copies et il verra ses résultats en expliquant comment cela a été calculé. C'est la transparence.
Voilà. On va prendre le tout dernier, les derniers auditeurs qui viennent d'arriver de nous rejoindre. Charles, vous êtes à Kinshasa. Armand, vous êtes à Mbujimayi, Djaloud de Kitalali. Charles, vous êtes avec nous. Bonjour, Charles.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole, Charles.
Merci, JR, pour la parole. Je tiens d'abord à présenter, à souhaiter mes bonnes fêtes pour l'anniversaire à la Radio Campi. qui a fait 14 ans, ce que nous sommes en train de déplorer pour notre gouvernement, c'est la façon de diriger des poids et des mesures. Je vais illustrer par un exemple. Lorsque le gouvernement organise des manifestations, par exemple, il y a défilé, les agents de l'État portent des uniformes, ils vont marcher sur le boulevard. Mais est-ce que le ministre qui est sur le plateau peut nous confirmer à la fin de
la manifestation, vos prédécesseurs ont évoqué suffisamment ces problèmes. Nous avons peut-être, vous nous avez pris en cours de l'émission. Maintenant, nous nous disons, c'est vrai, tout le monde est d'avis. Il y a les textes qu'il faudrait respecter, en tout cas par les uns et les autres. Aujourd'hui, l'image s'est tournée vers comment changer l'image de la fonction publique. Parce que le ministre lui-même, il est politique, bien entendu, et il est également administratif. Charles, quel faut-il faire? Quelles sont les priorités qui feront que l'administration puisse changer?
Bon, merci beaucoup, Gilles, parce que bien que je n'ai pas terminé mes idées.
Mais allez-y, vous pouvez combiner, mais en allant vers le but.
Oui, c'est que.
Mais rapidement, parce que nous n'avons plus assez de temps.
Lorsqu'il y a l'opposition qui organise des manifestations, on sanctionne les gens. Mais si c'est le gouvernement qui organise, on ne sanctionne même pas les gens, même si ces gens-là font partie de l'administration publique. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple-là. Les jours du défilé, on n'a jamais dit que le gouvernement passe dans le ministère pour prélever la présence de ceux qui ont participé. Et pourtant, beaucoup de fonctionnaires qui devaient obéir au gouvernement n'arrivent même pas à obéir, mais ils ne sont même pas sanctionnés. Mais parce que c'était l'opposition qui a lancé la journée de mort, c'est pourquoi voilà, nous sommes des subsidies aujourd'hui.
Merci beaucoup. Mais, Armand, vous êtes à Boujman. Bonjour Armand.
Oui, bonjour Gérard, bonjour.
En une minute, rapidement, en une minute.
En tout cas, je pose la préoccupation suivante. Je trouve que le ministre de la fonction publique, je ne sais pas s'il vient d'arriver, il ne trouve pas la maîtrise de son ministère. À peine, on a évoqué le cas d'un papa qui a fait 80 ans et qui attend sa retraite. Mais en tout cas, c'est décevant pour une administration publique. Alors que c'est un travail qui doit se faire du jour au jour. C'est-à-dire que le ministre doit tenir le répertoire de tous les effectifs de la fonction publique qui doivent aller en pension, qui doivent encore entrer, qui
ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup. Dans cette réforme, quel est le mécanisme que le ministère utilise pour en fait repérer ces genres de cas? Alors, Jaloud, en 30 secondes, rapidement, Jaloud.
Oui, pour moi, je pense que s'il faut bien arranger les fonctions publiques, je pense qu'il faut respecter les lois et respecter les administrés. J'avais une question.
Rapidement, parce qu'on a plus assez de temps.
Et pourquoi, si les personnes qui ont été révoquées, c'était parce qu'ils ont répondu à l'appel de l'opposition?
Voilà, je disais tout à l'heure, on a répondu suffisamment à toutes les questions. Merci beaucoup, Jaloud. Alors, on revient à vous, monsieur le ministre, parce que nous avons 3 minutes. Pour clore cette émission, toutes ces questions sur la réforme, vous avez parlé de l'ANAC, mais il y a des jeunes professionnels. Je ne sais pas, est-ce que les choses avancent aussi?
Très rapidement, pourquoi le programme jeunes professionnels? Évidemment, le gouvernement est conscient que sans ANAC par an, c'est suffisant pour agir notre administration publique. C'est pour cela qu'à côté, il y a eu le programme jeunes professionnels qui, d'ailleurs, au début, a été combattu, mais aujourd'hui, tout le monde est conscient que ça a déjà permis d'injecter dans notre administration publique plus de 500 jeunes. Et nous allons passer au recrutement d'un deuxième lot de près de 500 jeunes. Donc, c'est pour toujours rajeunir notre administration. La formation continue, c'est dans le même sens. Nous ne rejetons pas ceux qui sont déjà dans l'administration. Nous leur donnons une capacitation pour que notre administration devienne efficace. Est-ce que le ministre a la maîtrise de la situation? Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la maîtrise de la situation, mais je pense que notre auditeur ne nous a pas suivis. Nous connaissons les dérives dans la retraite, mais il faut des moyens pour les mettre à la retraite. Pour éviter le problème de moyens, c'est pour cela que nous avons décidé de créer la caisse de la retraite. Eh bien, cette caisse doit fonctionner. Nous attendons que la loi soit votée au Parlement et ça va résoudre le problème. Le cas de révoquer, je pense qu'on n'y revient pas. Nous avons déjà suffisamment répondu. Même notre ami Jules, qui était à Kilou, il a dit qu'il n'a pas vu la décision.
Alors, le 12 mars, c'est une date. Nous avons tous tendu une date. Cette date, donc, le 12 mars, c'est pour la clôture de la
Le 12 mars, c'est la clôture de la première session de formation continue adressée aux chefs des divisions et aux chefs des bureaux qui viennent, enfin, qui vont finalement terminer leur formation continue à l'ENA. Parce que l'ENA a une double mission, formation basique des énarques, mais aussi formation continue, capacitation, renforcement de capacité de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Ça, c'est son rôle que désormais il doit jouer. Et il ne faut pas oublier quand même de féliciter le gouvernement. Tout cela se fait et ça demande des moyens. Malgré la situation qui est difficile, le gouvernement met à la disposition de la fonction publique des moyens pour la réforme. Je pense que ça, il faut le reconnaître. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de choix. Nous devons avoir une administration qui soit efficace pour pouvoir accompagner la vision du chef de l'État.
Pascal Issoumbito, vous êtes professeur et en même temps ministre de l'information, ministre de l'instruction publique. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.
Merci de votre invitation.
Voilà, nous terminons par ici. Nous disons merci à Alain Ngoï qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mélie. Julie Feza Bongoda était au standard. Jérôme Lungembo, la coordonnée présentée sous la supervision de Martin Sebouzangui. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.